Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Vous en avez dit oui, comptez.
En Anny ? Mais et où que tu l'enseignes ?
Bah, pour au bourg.
Ah bah dis donc, je la réponds creux.
Ah bah faudrait que ça serait seul.
Bonjour à Tertou, bienvenue dans votre émission en galop sur Bretagne 5, Vanetti oui comté. Année autour de la table, Jertouan, Guy Jégu, tu vas nous causer de quoi ?
Eh ben j'allons causer cette semaine de Marie-Paul Salon, une poétesse de Plancouet.
Là. André, tu vas nous causer de...
Eh ben moi, je vais vous causer d'un poète écrivain du Pays Gallo.
Marie va nous parler de...
Eh ben moi, les métiers d'outfile, les métiers qui ont disparu de nos villages.
Là. Et Dédé Dernier, tu vas nous causer de Kai.
C'est une année qui commence bien mal pour la petite Victorine.
Eh ben je retrouve Guy avec Marie-Paul Salon.
Yon, on en a causé les semaines dernières... Et sur l'auté où il y a vécu Marie-Paul Salon à Plancouet, il y a une plaque sur laquelle vous pouvez lire l'année de sa naissance, 1902, et l'année de côté fin 1947, et il y a un de ses vers. Reste au mon horizon les touets de mon village. Marie-Paul Salon fut une nouvelle poétesse qui écrivit dans le dernier numéro des belles lettres de vers pleins de charme et de belles idées. Et voilà ici ce qu'elle écrivit. Alors, j'ai eu tout l'air de ses risses. Des premiers bons amins morts par des serres et des matins, j'ai breuil de mes personnes. Plus tard, de son étrange sang bon, un homme a frôlé ma langirie, et j'ai qu'neuil le sentueur et pire, et j'ai breuil des méchequins. Mais la douce lune des ours ouvert les tueurs les plus crouillés, des pays qui ses mains a m'aimé, j'ai breuil de sa veille qui brée. Une autre poétrie, le bel ouvrage. Un sœur imiao a mérité sa gloire. Un sœur imiao a voulu d'être un sœur et biao. Est un petit effant dans un berciao, fruit rose, mûrissant dans sa coupe d'ivoire. Ce bel ouvrage, plus vrai que tout, je l'aurais fait. Son petit chant de rouet et de kersel, qui tient de la guernette et de la tourterelle, j'en ai signé le couplet de mon lait. Laissez-moi t'accouter, tes terres biao, tes l'air dire, taille ce grand champ vraille, biao, ce vers sans défaut, taille ma parchée de chair bianche de mots, et qui n'a que pour parole que les sourires. Écrit de mes jours de deuil et de fouet, écrit de toute ma force de vive, livre de poétrie en mêle les livres, je voudrais tant avoir jamais écrit que taille. Et le troisième, ma kerouézeille est si près des vagues, qu'elle ou sent bon vert et mouillé, j'ai dit qu'à mon oreiller des brasseilles d'air que le vent charrie. Le livre reste sur son mont linceux, clos comme un regard en perrière, et reste tout maringerie. Comme employé au haut d'un mât. Je sais mains à bas, morte, toute à tout ce qui est de ce monde, pour torcher d'empoigner, enfin les mots des chums que j'écoute. Voici le bout.
Eh bien, merci Guy, et je retrouve André, un poète-écrivain du Pays Gallo.
Bien. Eh bien, bel bonjour à vous autres qui nous écoutez sur Bretagne 5. Et dans la ligne de nos diaries, que de vous causer de temps en temps d'un écrivain ou poète breton. Des écrivains bretons, il y en a grand nombre, mais de disance française ou tchokfaï breton, mais point de disance galaise. Je vous remercie ben de songer que nous autres, on est là pour y remédier, rien, ventier. Mais pour arriver au niveau des grands, il va falloir du temps. Et dans les grands carrés peuil, ou carrés d'œil même, ce qu'a fait un petit peu sur le galop, il y a du monde et du biomonde. Je mets un petit bourre pour le Féval, qu'on a écrit un petit, et on arrive tout de suite à un François Arnet de Chateaubriand, qui est né à Saint-Malo en 1768 et qui avait des racines pas loin de chez nous. Sa mère, Apolline Bédé, était de Bourseux. Et se marie à Bourseux le 3 juillet 1753. Dolhau, puissant chevalier seigneur Duplessis, René Auguste de Chateaubriand. Puis, on peut retirer de ses ancêtres sur Ruka et non bien à cette heure. Et j'avons aussi Ernest Renan, Tréguier, Roger Vercel, d'une année d'adoption, Jules Verne, né à Nantes en 1828, Odius Villiers de l'Isle-Adam, né à Saint-Berieul le 17 novembre 1838. Il y en a d'autres, bien sûr, mais je voudrais mettre au bout de mon effilongé un monsieur que tout le monde va reconnaître au bout du compte. Il n'est pas du tout à fait breton, il n'est pas à première vue galaisan. Mais il a tout comme ses origines dans le pays gallo et une part dans le pays du langage d'Oil, tout perchant de chez nous. Il est ben regrettable pour nous autres et corpus pour le galop que l'écrivain et poète là ne s'est pas accaparé un petit de notre langage. Mais bon, et de même. Sophie, sa mère, vint au monde et va me dire que déjà un bien au commencement à Nantes le 19 juin de l'an 1772, rue des Carmélites pour être dans le précis. Mais ses parents, Fintite, Gienne et Sophie et ses frères et sœurs, il est un huit, se vite remain à des perchins de la famille et l'ouvis se déroulit entre Nantes et Chateaubriand, en Loire inférieure à l'époque, et de toute manière en Haute-Bretagne et paille gallo comme chacun sait. En 1796, Sophie Trébuchet et son nom rencontrent un soldat républicain de petit nom José Léopold Sigisbert. Je vous dirai son nom un petit peu loin si vous ne l'avez pas déjà terroué. Il fut en veille à Grenelle et Sophie décidit d'aller l'y rejoindre et ils se marient le 17 novembre 1797. Puis Abel, le premier de ses gars, vint au monde le 15 novembre 1798 et quand on s'est terroué sur le bon tour, oh, voulu revenir en Bretagne. Mais son bonhomme ne voulut point et Eugène naquit à Nancy en 1800. Puis le capitaine est dépiacé sur Besançon et là vint au monde le dernier des gars à Sophie et José, le petit Victor. Dans l'interfète, Sophie rencontrit le souhaitier et amant de son José de bonhomme, Victor Claude Alexandre Fanot de Lahori. Le général Fanot de Lahori, de famille originaire de Normandie, naquit en 5 janvier 1766 à Javron-les-Chapelles, haute-paille de Languedoil, qui est la Mayenne. Mais le général Lahori n'est guère chanceux. Il va être mêlé à tort dans une manigance. Il sera même à la retraite et un petit plus tard poursuivi et condamné à mort. Dans l'oblige de se tuter, là sera pour une berouée de 7 ans, il sera à Berrier dans la vieille chapelle du couvent des Feuillantines dans le 15e arrondissement de Paris, devenue la demeure de Sophie Trébuchet et de sa petite famille. Il s'amusait de les effants et avait une tendresse pour le petit Victor qui était son filleul et portait son petit nom. Le général vint maître d'étude des effants là et lui apprendre le latin. Il paraît plutôt comme l'oupère, qui lit le vrai et toujours à Géroyer en Espagne ou ailleurs. Et on peut quasi assertainer de les sciences ou historiens que le général Victor Fanot de Lahori est bel et bien le père à Victor qui dit « J'eus dans ma prime enfance pour sûr trois passagères, 3 mètres, un jardin, un vieux prêtre, et ma mère. Le courtier était grand, sur fond de sucrés à mes yeux. Clos de des hauts murs, labériant des regards turieux. Et moyer de fieurs qui s'ouvrant tels que des paupières et d'insectes bariolés et parcourus sur les pierres. Emplaigné de bradement et de vouet tout en bermoyé. Dans le mi-temps, presque un clos, puis dans le fond, presque un bouet. Le prêtre, un grand sciençou de Tacite et d'Homère, était homme d'âge tout doux. Ma mère était ma mère. Et de même que je m'éblouissais sous un rat à trois. Et de même aussi que Victor Hugo, parce que, bien sûr, avait compris depuis longtemps qu'il était question de lui, aurait pu écrire le 31 du mois de mai 1839, mais en mieux, bien sûr, sur ce qui se passait et feuillantine les alentours de 1813. Si son précepteur de père, Victor Hugo, amorphose il en vieux prêtre, Bayan, rappelons que le monsieur de la Horie était tuté dans la vieille chapelle au fin fond du courtier. Vladon, ce qu'il aurait pu y écrire si Sophie, sa mère, et Victor, son père précepteur, lui avaient rappelé le vrai langage de Loupaille en même temps que le latin. À la prochaine.
Merci André. À ce tour-ci, j'allons faire une petite pause musicale et nous retrouvons tout à l'heure. Faites bain sur Bertagne 5, dans votre émission en galop, Vanetti, oui, comptez. Et à Sourcy, j'en ai retrouvé Marie.
Vert, bonjour. Ben, je voulais parler des métiers qui n'existent plus à cette heure dans nos villages. Les pères d'une copine étaient meuniers et ils vivent court dans le moulin, au bord d'une petite rivière, un endroit ben joli. La raille du moulin ne tourne plus, mais la trémie, les meules et les engrenages sont toujours en place. Sur les poutres, vous trouveriez ventier corps un petit farine de la poussière, mais surtout des irangues bien musseilles. L'homme-là me raconte, quand les deux dirent, surtout depuis la dernière, le métier de meunier avait disparu. Parce que dans notre paille, presque tout le monde avait pu acheter un moulin électrique pour faire la poisson qui donnait ébite. Petit à petit, les berouettes, les chirettes, les tombereaux arrêtaient de venir au moulin de le poucher d'avoine de blé ou de pommel. La roue du temps tourne tout le temps, mais elle du moulin a fini par s'arrêter de chanter. Il y avait aussi le charron, le forgeron et le maréchal ferrant qui travaillaient souvent ensemble autour des chevaux et de leurs attelages. Le travail du bois et du fer était hardi dur. Je me rappelle, avait voulu monter une roue en bois cerclée de fer. Eh bien, c'était de la belle ouvrage et ne voyait point se tromper. Voyait choisir les bons morceaux de bois pour que ça allait durer le plus longtemps possible. Ça allait de la roue de la berouette à celle du corbillard. Quand je passais devant ces lieux pour aller à l'école, Joachim, le forgeron, maréchal ferrant, nous montrait sa pince rougie par le feu et il nous disait tout le temps « Venez donc ici un petit que je vous réchauffe le bout du nez ». J'étais un tenant impressionné de les voir taper sur son enclume ou ferrer les gros chevaux de nos fermes. Tout là dégageait-il pas une ambiance inoubliable. La chaleur, les odeurs, les couleurs, le bruit qui impressionnait nos petites cervelles. Autant que les rangées d'outils naillent, bien pendus le long des murs et qui portaient tout des noms pas possibles. Puis, eh ben, vint le temps et eu que les écuries de nos fermes se vidaient. Le monde achetait des autos, des tracteurs, des remorques de des roues en caoutchouc. Tout l'a été fait dans des grandes usines, bien loin de nos petits bourgs. Il y avait aussi le métier de garde-barrière qui nous faisait rêver quand j'étais petit. Les gardes-barrières étaient des hors-venus qui avaient une belle cassette, un statut. J'habitais pas loin de la forêt de Saint-Aubin et où que passe la ligne de chemin de fer, l'emballe Lison. Le fait de oui ou de ne pas oui le bruit de la Micheline, eh ben c'était notre météo. C'était pas le nombre de trains qui passaient tous les jours, mais rien qu'à les regarder, on faisait des grands voyages. Et puis, il y avait les maisonnettes. Entre la gare de Lamballe et Yel de Planqué, il y avait plusieurs familles qui étaient logées dans les jolis petits hôtels, là, blancs, vrais cotiers, numérotés, entourés de le jolis petits courtiers bien clôturés, d'eau impure, une niche à chien et une petite muse à lapin. Eh bien, ça nous changeait des grandes bâtisses grises et des haujards de nos fermes. Quand il rasit la dernière maisonnette des Noërquais, entre Tietny et Landbia, hardi de nos rêves s'écroulit de Yel. Dans le milieu de la forêt, il y avait aussi le dernier charbonnier du coin, Jarnot, qui vivait tout sous. Il y avait une maisonnette qui avait été construite là, mais la route pour y passer n'avait jamais été faite. On ne pouvait aller s'élu qu'à pied par les bois ou en suivant les roilles. Il ne faisait sûrement plus hardi de charbon parce qu'il n'en avait pratiquement plus besoin. Et nos jeux de piste à nous étaient de chercher les ronailles et où qu'il avait fait du feu. Et quand j'allais le voir en cherchant des girolles, des pieds de mouton et des trompettes de l'amour ou du muguet, j'éteins à la faille Petit Pousset, le petit chaperon rouge et Ansel et Gretel. Faut quand même que je vous dirai que l'endroit là s'appelle la porte d'enfer. Et quand l'homme la cossit sa pipe, la maisonnette ne fut point mal à abattre. Si vous allez par là à ce tour, vous trouverez ventier une petite dalle de ciment et choc pierre moussue au milieu des éronces. Il y avait même du monde dans le temps-là qui était obligé de faire deux métiers. J'en ai connu un qui était facteur le matin et spécialiste des varonnous l'après-midi. Il faisait sa tournée de la poste de son vélomoteur et sa coche bien remplie. Il portait les lettres, les mandats, les colis. Prenait le temps de causer de bailler un verre de cidre ou un mic. Il s'en retournait manger ses lus et revenait dans les fermes l'après-midi débarrasser nos braves bêtes de vaches de la larve de mouche, là, le varon, qui se fourrait sous le loupiaou et les faisait souffrir. Il y avait bien d'autres métiers d'hommes, mais il y avait aussi les métiers de femmes. Il y en avait moins, ou plutôt il n'y en avait plus, parce que les pauvres femmes étaient tellement occupées de les enfants, la cuisine, l'hôtel, les buées, le jardin, les poires à soigner, les vaches à tirer. Il y avait les sages-femmes, Caïdin les petits a venus au monde. Et c'est nous, quand on voyait passer Jeanne ou Sidonie, on savait bien qu'il y avait du nouvia ou comme ils disaient, dans tel ou tel André. Mais là était tout entouré de mystères. À partir des années 55-56, toutes les femmes furent à la maternité de la ville la plus près. Il y a quelque temps, dis donc, j'ai eu l'occasion de causer dans une femme qui était presque centenaire et qui me racontait que son premier métier était d'être sautrussée pour la mairie de Lamballe. J'en étais ébahie parce que je n'avais jamais ouï dire que la mairie aurait payé du monde à sauter par-dessus le chifferouet ou le gouesson. Eh bien, si, dis donc. C'est un métier qui a bel et bien existé partout. Les sautrussiaux, c'étaient les petits commissionnaires qui portaient dans leur musette les courriers ou tout ce qu'il fallait d'une mairie à l'autre ou d'un notaire c'est l'autre. On les appelait de même parce qu'ils étaient obligés de sauter les caniveaux dans les villes et les russiaux dans les campagnes. Il n'y en a plus besoin à cette heure de saut russiaux puisqu'il y a des huchouets dans toutes les pouchettes et il y a le fameux Internet. Ah, j'ai connu aussi Christiane, qui était remoyeuse de bas et de chausse en tout genre à Paris. La polio les avait privés de ses jambes, condamnés à la chaise roulante à 5 ans. Pour profiter de la lumière naturelle, devant la fenêtre de son petit pavillon, au pitié à longueur de jour, en chantant de Edith Piaf ou les compagnons de la chanson. Changer un talon ou un bout de chausse était un vrai travail d'artiste. Il fallait une bonne veille, une minutie, une patience qui ne sont point données à tout le monde. Toutes les mercières et les dames du quartier venaient l'y apporter, le bas percé. Et de ses belles mains gantées, on faisait des merveilles de ses petits fils de toutes les couleurs, ses crochets fins et sa petite machine électrique à une vitesse qui éberluait tout le monde. Dans les années 60, ça ne valait plus le coup du tout de réparer les bonnilons. Christiane posait ses crochets pour de bon, mais je peux vous assurer qu'on ne perdit jamais, jamais sa bonne humeur. Et comme est là que le temps passait, que tout le monde était bien occupé, les travaux de la maison, des clos, elle sait, quand les familles se retrouvaient autour de la table et yuk fumé la soupe, notre monde s'est limité à nos voisins, à notre village, à nos coteries et nos chemins creux. Mais on avait toute une culture dans le chouchou et dans le cœur. Et c'est pas là qu'on appelle la veille des fondations ou des racines. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous?
Eh bien, merci Marie. Merci pour tous ces beaux métiers. Et à ce tour-ci, j'en ai retrouvé Dédé Dernier, la petite Victorine.
Dans le village, bien sûr, la petite Victorine, on la nomme Taurine. Là, la petite, elle n'est pas bien fine. On veuille bien qu'elle ne va pas s'en finir ou deux. Elle allait en vélo, ça le colle, et faisait les commissions et tout de même. Le peu dur, c'est de redoubler avec le pain de 6 livres et de 12 livres, des faits. Autour des années 50, pour le premier jour de l'an, sa mère y tenait le crachouet. Une nuit, chaque fait que tu vas à connaître qu'il y a qu'un au bourg, tu de deux bagouleux, ben comme il faut. Bonjour, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Allez, repèse donc que je vois que t'as ben interlusé. Bonjour, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Elle te ben pouillée une nuit. Ben d'homme, c'te fête. C'est ben, à c't heure, va au bourg, crie les commissions, v'là le mot de cri, où y a ce qu'il faut pour ben reçu à midi. C'est fête nuit. Tout en pedalant sur son vélos, qui est reçu l'an dernier pour ses étrennes, elle aveu pou de ce deux baoubé, aussi, elle rabattait sa fameuse petite phrase, bonne année, etc., etc. Il te pote qu'être très nassé. Être première à la communale, mais l'émotion peut vous faire de rayeux. Arrivée chez la boulangère, et n'oubliez point de bain de bagouleux, bonjour, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et le paradis à la fin de vos jours. Ah ben dame, la boulangère, et y bailli, tieux caramolé, des durs, dangereux pour les râteliers, et des moueux tout. La taurine est tebenaise, elle va pas s'affinauder, mais des faits, elle en sorte de bonne. Chez le picieux, elle achetit un camembert, c'te fête nuit. Et n'oubliez point de bain de bagouleux, bonjour, je vous souhaite une bonne année, nufard, et poufi dans rigoleux. Le picieux et tout, puis bien sûr, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Le pisseur ayit donné une poignée de guenaou, des bingouleyants. La taurine était de plus en plus benaise. J'en avais bien mes pouchettes, qu'est-ce disait. Et feu tout chez l'autre petit marché, il te moins enchéri. Crie un litre de vin rouge, du sénéclose. Ah, madame, c'te fait de nuit. Et bien sûr, elle n'oublie pas que sa mère avait bien recommandé, mais elle songeur qu'à ses guenaou. Bonjour, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de l'année. Ah, ben, elle reçut une paf sur la goule. Et la pauvre taurine est redoubie à l'ôter, tout en pignant, tout au long du chemin. Et pourtant, c'te fait de nuit. Allez, bonne année et à la revoyure.
Merci Dédé. Votre émission Galop est à ce tour-ci et bouteille. Je remercie les chroniqueurs et les chroniqueuses et notre Facebook Frédéric Guillon. Et vous pouvez nous y retrouver en podcast. Et moi, je vous dis à tantôt.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.